présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Réfléchis une minute et va à l'armoire. Pour prendre des draps, de bons draps de lin, bien costauds. Elle est défaite. Et les attache les uns aux autres avec des nœuds de marin bien costauds qu'elle a pris en vacances en Bretagne. Une fois que les draps ont été attachés pour faire une longue corde, elle va les attacher à la rambarde de la fenêtre. attaché à l'enrambarde de la fenêtre. Les attacher avec un bon nœud et descend les draps. Elle regarde en bas, à un mètre près, c'est bon. Il ne pleut pas, il ne fait pas de vent, il n'y a pas de bruit, il fait noir. Allez vite. Elle se met sur le rebord de la fenêtre. Se retourne et se pend à la corde en drap pour se maintenir et descendre. En se maintenant fermement avec ses deux mains, sans regarder le bas pour éviter d'avoir le vertige, elle descend le long du mur. Les draps semblent tenir, malgré quelques craquements de temps en temps. Elle a chaud, elle a peur. Son corps bat très fort, mais il faut qu'elle le fasse. Elle sent qu'elle arrive au bout de la corde. Elle se penche, regarde en bas. Ne voir que du noir. Ses pieds sont dans le vide, à peu près à un mètre du sol. Son corps bat très fort. Elle hésite de se lâcher pour tomber. Elle est en sueur. Mon Dieu, aidez-moi. Allez, à la grâce de Dieu. De toute façon, je ne peux plus remonter. 1, 2, 3. Elle ferme les yeux et lâche le drap. Elle se retrouve à terre, sans qu'elle ait eu le temps d'avoir peur. Se relève, n'a rien de cassé, reprend son souffle. Vite, vite! Elle va ouvrir le portail. Par miracle, il n'a pas été fermé à clé. Vite, elle se met à courir. Sort de derrière les buissons du jardin un homme habillé en noir, 40 ans, fort. C'est le domestique. Il lui court en paix après en se disant, car il a vu dans quelle direction elle allait. La petite garce, elle a le feu au cul. Sa mère a bien raison de l'enfermer. Je vais la suivre pour la ramener à sa mère. Pas qu'elle est suivie. Elle court dans les rues noires et désertes. Elle veut le retrouver et partir avec lui. Elle court dans les rues désertes. Elle a foi. Elle sait qu'elle va le retrouver. Tout d'un coup, elle se souvient où se sont vus la première fois. Les amoureux se retrouvent toujours sur le lieu de leur première rencontre. Elle va sur le quai, en direction du quai de la Saône. Elle longe le quai et regarde la berge. Elle ne le trouve pas. Va jusqu'au quai Rimbaud cet endroit lugubre. Là, elle le voit endormi sur des tas de sacs. Oui, c'est bien lui. Elle descend vers la berge, va vers lui. Elle est toute essoufflée, les larmes aux yeux, la gorge serrée. Il dort allongé, le visage lumineux et calme. Elle lui dit « Kevin, Kevin !» Il se réveille. La voix « Constance, oui c'est moi !» Il se lève et tombe dans les bras en pleurs. Elle lui dit « Je t'aime, moi aussi !» Il la couvre de baisers, en pleurs, presque en crise. Elle lui dit « Nous ne quitterons plus, n'est-ce pas ?» Il lui dit ému, mais plus calme « Non, je te le promets. Tu me garderas près de moi. » Oui, je te le promets. Je suis ta femme, je t'aime tellement, si tu savais. La trouve tout excitée, veut la calmer par des baisers, des caresses. L'un ne suffit pas, ils s'échauffent, leur amour si fort. Alors, tout en l'embrassant, en se caressant, il l'amène vers une barque. La fait descendre. Elle descend. Une fois qu'elle est descendue, il la couvre de baisers. Elle la caresse. Elle se laisse faire. Il demande « Tu veux bien ?»« Oui, je le veux. Je le veux. » Il caresse ses cheveux. Il donne des baisers sur le visage, le corps. Caresse par-dessus ses vêtements, puis petit à petit, il la déshabille. Elle l'aide. Elle est nue sur la lune, dans la barque. Il est subjugué par sa beauté. Il se déshabille en vitesse et ils font l'amour. Elle accepte, le veut, le désire. Puis, essoufflé, épuisé, heureux, il reste enlacé dans la barque, nu, regardant le ciel étoilé. Puis, ils voient apparaître une tête d'homme au-dessus d'eux.
Mademoiselle, réveillez-vous et venez avec moi.
Kevin demande, qui est-ce? Elle lui dit, c'est le domestique de ma mère. Rhabillons-nous. Ils se rhabillent en vitesse et sortent de la barque. Et le domestique lui dit
« Maintenant, jeune homme, vous allez venir avec moi. »
Kevin le regarde et lui dit « Pourquoi ?»«
Parce que vous avez des vergondés de mineurs. Je vais vous mener à la police. »
Kevin lui dit « Sûrement pas. Et nous n'avons pas à vous obéir. Je pars avec Constance. »«
Sûrement pas, jeune homme. Vous allez venir avec nous. »
Il prend Kevin au collet. Constance panique et n'ose rien faire. « Laissez-le !» Le domestique lui dit
« Vous occupez pas de cette affaire, c'est entre lui et moi. »
vin veut se dégager. De l'emprise de l'homme. Avec ses mains, il essaye de retirer les mains de l'autre. L'homme maintient bien. Kevin, d'un geste, lui donne un coup de pied dans le ventre, ce qui fait se dégager. Mais l'homme furieux fonce sur lui et le fait tomber. Les deux hommes roulent à terre, chacun cherchant à maintenir l'autre à terre à sa merci. L'homme devient de plus en plus furieux. Il tient à terre Kevin. Il est sur lui. Kevin furieux lui crie « Sors de là, ben ! Lâche-moi !» L'homme furieux, les deux mains, lui prend la tête et la lui cogne sur le sol. Il tape, tape. Il est en nage, en sueur. La fille crie « Arrêtez, arrêtez ! Vous êtes fous ! Vous allez le tuer ! Arrêtez !» L'homme tremblant, en sueur, s'arrête. Lâche sa tête, qui tombe à terre, sans connaissance. Il se relève. La fille fonce sur lui, lui tape des mains avec ses poings et lui crie « Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ?» L'homme lui dit avec dédain « Parce que il est comme moi. Je déteste les pauvres. Et avant que vous fuyiez avec lui, j'ai préféré le tuer pour que vous ne soyez pas à lui. » Elle lui crie « C'est déjà fait !» Le domestique ne dit rien. Furieuse, elle tourne autour de lui. Elle prend une barre de fer qui est à terre. Et sans qu'il ne puisse se défendre, s'en rendre compte, derrière lui, elle lui en donne un coup sur la nuque. Il tombe à terre et fait tomber de sa poche un revolver. Elle continue à lui donner des coups, des coups, des coups. Puis, épuisée, elle lâche sa barre à terre. La tête vide, elle va vers Kevin. Elle se penche, les larmes aux yeux. Elle voit qu'il n'est pas mort. Le visage en sang, il bouge un peu les doigts et les yeux. Elle s'assoit près de lui, lui prend la tête entre ses bras et le berce. Elle lui embrasse le crâne. Il ne peut pas parler. Elle lui chante tout doucement, rien que pour lui, une chanson. Elle ne veut pas aller chercher du secours, car quelque chose lui dit qu'il mourra entre-temps. Elle veut rester près de lui jusqu'à la fin. Elle sent le cou battre contre le sien, puis petit à petit, serait dire. Elle continue à chanter en pleurant et en l'embrassant. Puis, elle sent qu'il est mort. Elle pleure au-dessus de sa tête en le berçant. Au sol le pistolet du valet. Il dépose la tête délicatement à terre, se lève, va chercher l'arme, revient vers Kevin, se plaque contre lui et d'une main, elle s'est tirée une balle sur la tempe et tombée sur lui. fait nuit, plus de bruit. Les amants sont lancés pour toujours. Au petit matin, les ouvriers ont découvert les trois corps. Ils ont prévenu la police qui est venue les chercher. La police a retrouvé l'identité des victimes. Un policier est allé voir la mère. Sa mère a dit que sa fille s'était enfuie. Elle apprend leur mort. Alors elle comprend et se dit que c'est de sa faute. Dès que Galien apprend la chose de sa mère, il est triste. Elle lui demande « Tu ne peux pas faire quelque chose ?» Galien lui dit « Non, à quoi bon les faire revivre ? Ils sont morts d'amour et c'est la plus belle mort qui soit. » L'amour ne dure pas, ils n'auraient pas été heureux. Plus tard, ils en auraient aimé d'autres. Parce que l'amour ne dure pas. Mourir d'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. La mère de Constance va le voir chez ses parents. Il la reçoit au salon.
Entrez. Asseyez-vous.
Elle lui dit. Faites revivre ma fille et son ami, je vous en supplie. Galien lui dit, non, c'est mieux ainsi. Ils sont plus heureux où ils sont, parce que dans la vie, On les aurait séparés. Et les jours passent. Les femmes sont très satisfaites de leur chimère domestique car ils savent tout faire, laver, etc. Les industriels aussi et l'armée. On a transformé l'ADN de certaines poules pour qu'elles pondent des œufs, mais des œufs qui ne restent œufs, qui ne peuvent pas se transformer en poussins pour faire des œufs pour la nourriture. Autre nouvelle invention, on crée des arbres. Comme des arbres qui font du caoutchouc, mais au lieu de faire du caoutchouc, ils font du PVC. Pour Lyon, le métro de Lyon va jusqu'à Grenoble sans conducteur. Il y a des gares à chaque ville et village. Puis le métro est remplacé par un train. Arès à Telos. Pour la télévision satellite, il y a une augmentation des tarifs parce qu'il faut envoyer à chaque fois des satellites pour les remplacer, ceux qui sont morts, et ça coûte très cher. Pour le levain, pour éviter que l'alcool nuise et dégrade le corps humain, on fait en sorte à ce que l'alcool n'aille pas dans le cerveau et qu'il aille directement dans la digestion, sans passer par le cerveau, ce qui fait que les gens peuvent boire de l'alcool en ayant le goût du vin, sans qu'il y ait des ennuis avec l'alcool, sans que ça les enivre. Nucléaire, radioactive, font les humains plus forts, les mutent, les transforment. Pour que les gens vivent plus vieux, on les exalte, on leur donne des problèmes à résoudre pour bien faire marcher le cerveau. Moi, je mange peu. Après avoir mangé, j'ai froid. Puis, j'ai trop chaud. Au bout d'un moment, je me sens bien. Et lorsque j'écris, je suis exalté. Lorsque j'arrête d'écrire, je suis fatigué. J'ai sommeil. Pour vivre vieux, il faut manger juste ce qu'il faut, boire de l'eau, pas d'alcool, pas fumer, rester toujours au même milieu climatique et avoir une ou plusieurs passions. Des maisons de retraite pontoise que vous connaissez où les gens meurent au bout de 6 mois, c'est programmé pour qu'ils puissent mourir au bout de 6 mois, il existe des maisons de retraite jeune tout luxe pour prolonger la vie. Là, cette fois, c'est le contraire, mais pour des gens bien, des gens comme il faut, très riches, bien. Alors, on fait faire du sport pour les exciter, ne pas rester sur une chaise et pour éviter qu'ils vieillissent. On les occupe beaucoup pour éviter que le cerveau vieillisse. on ne greffe plus que des organes faits avec sa propre peau. Comme je vous l'ai expliqué, ADN, PVC, peau. Mais certaines personnes veulent des organes de jeunes enfants car ils croient au rajeunissement. Et il y a une clinique clandestine, il y a des vols d'enfants pour enlever leurs organes. Il y a aussi des chirurgies esthétiques complètes. On enlève la peau de la personne, toute la peau de la personne, puis on met sur son corps un bout de peau de personne jeune. Cette peau se grandira et recouvrira entièrement le corps de la personne. Comme on a fait pour Madame de Hautbord. Pour faire plaisir aux mémères, on rallonge la vie des chiens. Ils dorment plus longtemps, ils mangent moins, mais des croquettes très vitaminées et qui ne donnent pas de mauvaises odeurs. Riquin trouve un produit pour que l'homme ne mange plus de viande, n'ait plus besoin de manger de viande, car il fait que ce produit fait croire à l'homme, au corps de l'homme, qui mange de la viande alors qu'en réalité, il n'en mange pas. Plus besoin d'élevage. Les paysans sont furieux, mais on leur dit c'est de continuer à élever les animaux pour faire des produits pharmaceutiques et de beauté. La chasse est interdite, mais on stérilise des animaux pour qu'il n'y en ait pas trop. Pour les poissons aussi, c'est la même chose. Les pêcheurs sont furieux, mais on leur dit qu'ils peuvent continuer à élever les poissons pour les produits cosmétiques de beauté et autres. Galien convoque Danfort dans son bureau pour lui parler du nouveau continent, pour savoir si le continent tiendra le coup, s'il y a un tremblement de terre.
Oui, puisqu'il est fabriqué en béton spécial. Il s'étire et se compresse à chaque secousse. Pour ce qui est des piliers qui sont sous le sol, sous l'eau, si ça bouge, il y a des espèces de roulements à billes et le sol s'étire au rythme des secousses et raz-de-marée. De toute façon, il n'y a aucun risque. Regardez Venise avec ses piliers en bois où on a mis des palais dessus. Nous avons fait avec des produits, du matériel moderne, du béton PVC solide, des piliers en métaux spéciaux. Vous ne risquez absolument rien. Ça risque ni de couler et le vent ne risque pas non plus de faire chavirer quoi que ce soit.
petite parenthèse pour dire pour comme une histoire d'amour sont pour la plupart homo, parce que la liberté sexuelle a rendu les hétéros tellement libres qu'ils peuvent, que tout est permis pour eux. Et ça leur a enlevé, cette liberté leur a enlevé de vrais, qu'ils puissent avoir de vraies histoires d'amour. Une histoire d'amour ne peut être que parce qu'il y a contrariété. Roméo et Juliette, etc. Galien se dit, mettre à égalité toutes les cultures, c'est idiot. La musique de Mozart, par exemple, à égalité avec n'importe quelle musique tam-tam, c'est ridicule. Un enfant avec une cuillère tape sur la table pour faire du bruit. Cela l'amuse. Puis il tape de plus en plus et en faisant le geste, le bruit, ça le met en quelque sorte en transe. Alors il tape de plus en plus et en cadence, régulièrement, comme s'il était en transe. Ceci est de la musique instinctive, pas culturelle. Tandis que la musique de Mozart, par exemple, elle est culturelle parce qu'elle fait marcher le cerveau, l'intelligence, la culture, le goût. Donc, on ne peut pas comparer une musique d'instinct à une musique qui a demandé des efforts au cerveau pour la créer. Pour la peinture, c'est la même chose. Mais ça ne veut pas dire que l'on doit aimer que la musique culturelle, que tout ce qui n'est pas culturel est dénigré, l'autre, l'instinctif. Mais il faut être réaliste et se dire que ce sont deux choses différentes et qu'ils ne peuvent se comparer. Les jours passent ils passent et un matin Galien a dans son bureau Danfort, Ricain et Lucien Pontois. Galien leur dit: le continent est fini et le bateau est prêt. Il va falloir commencer à préparer notre déménagement et préparer la liste des gens qui doivent partir. L'enfant lui dit: attention, pour la liste, il ne faut que des gens de notre monde, utiles à la société, en très bonne santé. Ne pas oublier, c'est que notre but premier est l'immortalité, et qu'elle ne peut être donnée que pour des gens sains, utiles. Ricain lui dit: des cadres, des aristocrates, des scientifiques, nous ne voulons pas d'une population un problème. Galien leur dit: de toute façon, depuis quelque temps, les bureaux de recrutement ont fait une sélection qui a été très sélective, et nous allons faire la nôtre pour nos collaborateurs et familiers et connaissances, et en étant tout aussi sélectifs. Il faudra que la liste soit finie dans une semaine. Pour ce qui est des bagages, le strict minimum. Tout a été prévu. L'enfant lui demande: et le siège? Galien lui dit: les archives sont sur informatique. Il ne restera qu'à prendre nos disquettes. Là-bas, le nouveau siège est équipé des derniers modèles. Riquin lui demande, et moi ? Galien lui dit, vous aussi. Vous ne prendrez que vos dossiers. Le reste, à part l'ADN et des choses que vous jugerez utiles, c'est tout. Et vous brûlerez les organes et choses que vous n'avez pas besoin, que vous laisserez ici. Pour ce qui est du personnel de notre groupe, ils ont été prévenus. Et ils savent qu'ils doivent être prêts à partir d'un instant à l'autre. Tout est prêt pour eux, maison individuelle, école, etc. Et le groupe Pontois, Lucien lui dit, nous aussi nous sommes prêts. Nous laissons tout en France, sauf nos archives. D'ailleurs, pour continuer à gérer nos affaires sur le continent européen, nous gardons le siège à Lyon. Galien lui dit, nous aussi, nous gardons une agence à Paris. Bien, alors n'oubliez pas, pour le bateau, que des personnalités importantes et la cargaison. Le reste des colons en avion Super Phénix atomique. Il y en aura 500 environ, de 3000 places chacune. Et le bateau peut recevoir 20 000 personnes. C'est le plus grand bateau du monde, le Transgène Gap. Bien, messieurs, je vous laisse à vos occupations pour de préparatifs. Départ dans un mois. Et chacun va à ses occupations. Les agences de recrutement pour les colons se ferment une à une. Il y a eu beaucoup de demandes et peu d'élus, car la sélection était très sévère. Visite médicale complète, psychologique, physique, diplôme, idée politique, descendance. Refuser toutes les personnes qui ont des idées, disons, 68ardes, la gauche caviar, les tirs au flanc, les malades, les pervers de toutes sortes, tous ceux qui ont une intelligence trop moyenne, qui n'ont pas une profession moderne, etc. Chaque membre du groupe fait une liste pour ses proches. Lucien n'a que Pascal. Galien, ses parents, oncle, tante et bien entendu Philippe et Guillaume. Riquin, d'Amfort choisissent aussi. Galien n'oublie pas les Hautebord et Condorcet. Philippe lui dit, lorsque Galien lui a dit de se préparer pour partir, ma mère est très triste et préférerait que je reste ici. Galien lui dit, mais c'est ridicule si tu restes ici. Le continent va devenir un continent de déshérités, de pauvres. Tout savoir va partir. Que vas-tu devenir ? Philippe lui dit, je ne sais pas. Bien, je vais voir ta mère. Et il sort de la chambre pour aller au salon voir la mère de Philippe. Il entre. Elle est assise. Oh, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux ? Galien va vers elle.
Tante, il faut que vous partiez. Ici, c'est fini. Il ne restera que les démunis. Elle lui dit, si nous partons, nous serons à ta merci. Et Philippe sera toujours près de toi.
Pas plus que maintenant. Et si vous voulez, vous vivrez à l'autre bout du continent.
Mais partez. Faites-le pour Philippe.
Non.
La porte est ouverte. C'est ton mari. Nous partons.
Elle le regarde et lui dit
« Je veux pas ruiner la vie de mon fils, de nous, pour une histoire sentimentale. Nous partons, j'ai dit. »
Kalia lui dit « Merci, mon oncle. »
L'oncle lui dit « Tu penseras à moi, je vous le promets. »
Guillaume se prépare, il emmènera bien entendu l'ordinateur de sa mère. Il est heureux de partir. Kalia se demande ce qui va se passer entre Guillaume et Philippe lorsqu'ils vont se rendre compte qu'il est l'amant de tous les deux. Il sera peut-être obligé de choisir. Bien entendu, l'ordinateur Félicien Pontois part. Les bourses du monde entier s'effondrent. Seules les actions Jeune Tout Pontois continuent à monter. Le nouveau continent vieillit tous les autres. Ils ont l'air d'être dépassés, morts. Les gouvernements des pays ne vont gouverner que des peuples vieux, déclassés et qui ne peuvent pas s'adapter au nouveau monde. Ils sont inquiets. Galien va voir le président de la République française, Marc, qui le reçoit à l'Élysée dans son bureau. Le président lui dit « Alors, vous êtes prêt ?»«
Oui, monsieur le président. »
Le président lui dit « Qu'allons-nous devenir sans vous ? » ?»«
Vous allez avoir l'élite et nous la racaille. »
Galien lui dit « J'ai réfléchi à tout ça et je me suis dit que je ne pouvais pas laisser les pays comme ça. Alors je verserai à chaque pays, et suivant leur grandeur et habitants, une somme, une aide. Mais vous devrez vous en servir pour acheter nos produits agricoles et autres. »
Bien
entendu, cette somme diminuera petit à petit et vous devez faire en sorte à ce que votre population d'inadaptés au monde moderne diminue. Notre but est de supprimer tous ces gens et n'avoir qu'un type d'homme adapté au monde moderne, et un nombre limité. La qualité est préférable au nombre, surtout si cette qualité doit vivre fort longtemps et peut-être éternellement. Si c'est le cas, la sélection naturelle ne peut plus se faire qu'en amont. Marc lui dit, « Donc notre rôle, nous chefs d'État, c'est d'éliminer notre population. Chaque pays doit devenir un camp d'extermination. » Galien lui dit « Attention, en douceur. Ce qu'il faut surtout, c'est éviter les naissances. » Marc lui demande « Et nous, chef d'État, qu'allons-nous devenir ?» Galien lui dit « C'est comme si vous étiez des cadres qui travaillent pour nous. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire. Donc, vous allez recevoir un salaire de cadre du groupe Jeune Tout, avec tous les pourcentages. Une fois que votre travail sera fait, vous viendrez prendre votre retraite chez nous. Je vous demande d'expliquer tout ça aux autres États. Et vous leur direz qu'ils seront très bien rétribués. »
Bien, je le ferai.
Galien lui dit encore, le continent n'appartient à aucun pays. Il est la propriété du groupe Jeune Tout, rien de plus.
Arrivé à son bureau, Galien
Allô, pouvez-vous dire à M. Danfort de venir me voir à mon bureau? Oui, merci.
Entrez. Entre Danfort. Veuillez demander, Monsieur le Président. Oui, venez vous asseoir.
Je me sens mal à l'aise. Ce que je lui ai dit me dégoûte. Danfort lui dit, il faut bien plus passer par là. J'aurais jamais cru. Danfort lui dit, vous êtes l'élu.
Commence à remplir les caisses. Les gens disent au revoir à leurs amis. Les bagages doivent être embarqués en premier. Ils sont amenés dans des trains spéciaux, amenés jusqu'au bateau, le bateau qui se trouve au Havre. Le bateau est flambant neuf. L'équipage était particulièrement sélectionné. L'ingénieur en chef, c'est Frédéric Lefort, et c'est lui qui, durant toute la traversée, doit donner les ordres au capitaine. Le bateau a 5 niveaux pour les passagers, avec 5 coursives. En plus des 5 niveaux des passagers, il y a un niveau pour les bagages, en plus la machinerie. Et tout en haut, au-dessus, en dernier, tout en haut, il y a le commandement. Le troisième niveau, c'est celui des salles de réception, salon, restaurant, salle de spectacle, cinéma, salle de sport, piscine, etc. Les autres niveaux sont des appartements privés et les chambres. Tout est d'un luxe incroyable, marbre, parquet. Il y a 5000 personnes pour le service des passagers et du personnel. Le personnel est logé au niveau du commandement avec les marins et les officiers. Ils ont des salons sans la manger pour eux. Le bateau, quoique insubmersible, a des canaux de sauvetage gonflables en quelques minutes avec moteur. Et un avion survolera tout le long de la traversée. Le bateau, grâce à son énergie atomique, fera du 500 km/h. Imaginez-vous une énorme masse d'un luxe incroyable à l'intérieur. Il n'y a que des premières places. Je ne peux pas vous en dire plus car ça prendrait trop de temps. Le Transdiap est le plus grand bateau du monde. Il peut avoir jusqu'à 20 000 personnes. 20 000 passagers, plus le personnel et les gens d'équipage.
C'est le bateau le plus moderne du monde.
Mais sa modernité ne se voit pas. Elle est discrète pour laisser la place au confort et au bon goût. Lorsqu'on est dans le bateau, on n'a pas l'impression d'être dans un bateau, mais dans un hôtel de très grand luxe. Le personnel et l'équipage a embarqué un mois avant le départ pour tout préparer et se familiariser avec le bateau. On a donné à chacun un plan du bateau avec, pour les cabines, le nom des passagers qui y seront, ce qu'ils aiment en nourriture, loisirs, lubies, etc. Avant d'embarquer, tout le personnel était formé pendant 2 ans dans une école pour leur apprendre leur travail et une maquette pour leur apprendre le lieu où ils vont travailler. Frédéric Lefort a formé l'équipage et son capitaine pour le maniement du bateau. Comme c'est un bateau immense, à très grande vitesse et atomique, il faut le manœuvrer d'une façon spéciale. Ne pas faire l'inverse comme pour le Titanic, que le personnage n'a pas été formé, qu'il ne connaissait même pas le maniement du bateau, ni se diriger à l'intérieur. J'ai oublié de vous dire, c'est que les cuisines se trouvent au 3e niveau. Elles sont immenses, avec un très grand garde-manger de produits biologiques congelés et des produits pontois plus riches. Le continent est fini. Il a une température stable car sous la terre, on a mis des tuyaux pour le chauffer à la même température. L'énergie est nucléaire et le responsable de l'énergie dans tout le continent, c'est Frédéric Lefort. L'eau, c'est l'eau de mer traitée avec des bactéries pour qu'elle devienne pure. Et c'est l'eau la plus pure du monde. On a fait des collines, montagnes, des champs suspendus, des serres,